Et puis, ce matin, j'aimerais reprendre là où Félix avait laissé il y a deux semaines, dans Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 18. Philippiens chapitre 12, chapitre 2, versets 12 à 18. Alors, au risque de répéter ce que Félix a déjà dit il y a deux semaines, mais ça peut être que pour votre bien et pour le mien, je vais reprendre là où il y avait laissé, mais on va reprendre quand même, on va relire le texte. Et puis, merci encore pour le message de Sonève la semaine dernière. On est vraiment bénis. Alors, je lis avec vous, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous m'avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Verset 17. « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » On l'avait dit au tout début, Philippiens, l'épître de la joie. Il y a de la joie ici, dans le passage qu'on vient de lire, ça se termine dans la joie. Quatre fois, Paul va parler de cette joie-là, et puis on va y revenir un peu plus tard. Alors, le titre de mon message ce matin, « Mettre en œuvre ce que Dieu produit ». Mettre en œuvre ce que Dieu produit. Et quand on s'attarde aux deux premiers versets, eh bien, on est obligé de se réconcilier avec l'irréconciliable. Hein? C'est un vieux paradoxe, vieux comme l'Église, le paradoxe de la marche du chrétien. Une vieille contradiction. À nos yeux, ça semble être une contradiction. Vu à travers les lunettes de la créature limitée qu'on est. Et c'est là qu'on ne doit pas avoir peur de demander à l'aide au Seigneur. « Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. » Parce que, naturellement, c'est hors de portée. Ce que le Seigneur enseigne à travers la Bible, c'est hors de notre portée. L'homme naturel ne peut pas saisir ces choses-là. Alors, c'est là que le Saint-Esprit vient à notre secours. Et il est fidèle pour le faire. Et il est fidèle pour le faire encore ce matin. Afin qu'on ne regarde pas ce qui est enseigné ici à travers nos lunettes de créatures limitées, à travers nos lunettes de pécheurs, mais bien à travers des yeux, à travers un entendement que Dieu lui-même va renouveler, à travers une intelligence que lui-même va ouvrir. Fait que c'est ma prière pour chacun de nous ce matin, que lui-même vienne en ouvrir notre intelligence, que lui-même nous enseigne, que lui-même nous rassure, que lui-même nous rappelle à quel point il nous a aimés. C'est ma prière ce matin. Alors, c'est quoi ce paradoxe-là? C'est quoi cette contradiction? Est-ce que ma marche, que les théologiens vont appeler la sanctification progressive, est-ce que ma marche dépend de moi ou dépend de Dieu? Est-ce que la grâce exclut tout effort de ma part? Est-ce que d'être sous la grâce exclut tout effort de ma part comme être humain? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est le drummer qui est caché en arrière, qui est encore là avec son téléphone. Prenez l'appel de quelqu'un. Est-ce que la grâce exclut tout effort de ma part? Est-ce que Jésus arrive sur scène une fois que j'ai atteint mes limites? Est-ce que Jésus prend le relais une fois? Est-ce que Jésus finalement me demande, fais ton possible et je viendrai faire le reste? Est-ce que je dois poursuivre le travail que le Seigneur a commencé? Est-ce que c'est ça la marche du chrétien? Est-ce que de marcher dans l'obéissance, c'est de poursuivre le travail que le Seigneur a commencé? Je pense que c'est un appel urgent. Et remarquez comment Paul va débuter ce passage-là. Ainsi, Un petit mot très important en ouverture de lettre ou en ouverture de passage. Ainsi, mes bien-aimés. Ainsi, ce mot-là nous ramène à Jésus. Ce mot-là nous ramène à Jésus, à son œuvre, à deux choses. Son œuvre et son exemple. Et le passage qui précède, celui qu'on vient de lire, vous pourrez relire ça à la maison, nous parle particulièrement de son exemple. Lui qui s'est dépouillé, Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui s'est dépouillé, qui s'est fait serviteur, Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur. Alors ce mot-là nous ramène à lui, nous amène à porter le regard sur Jésus. Et puis ça, c'est un petit électrochoc aux religieux en vous, aux religieux en nous, qui veut se mettre de l'avant, qui veut se mettre à l'avant-scène, qui veut prendre en main. Mais je dois d'abord me rappeler, et je pense que c'est notre frère, pasteur Marcus, qui mentionnait quelque chose semblable à ça, que pour savoir marcher, je dois savoir m'asseoir. Hein? Ça, vous avez mentionné quelque chose durant la convention qui ressemblait à ça. Pour savoir marcher, je dois d'abord savoir m'asseoir. Je dois me rappeler la ferme assurance de l'amour que Dieu a pour moi et avoir une claire révélation de son œuvre tout accomplie. Je dois connaître ce que je suis et ce que je possède. Je dois connaître ce que je suis, je dois connaître quelle est mon identité et ce que je possède, les ressources infinies de Dieu pour moi. Pour savoir marcher, je dois savoir m'asseoir. Je dois savoir me nourrir de qui Jésus est pour moi. 2 Corinthiens 5, 21 m'enseigne que Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu le fait devenir péché. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui était sans péché, Dieu le fait péché. Lui qui n'avait pas connu le péché, il le fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors malgré mon passé, malgré mes chutes, mes échecs d'aujourd'hui, de demain, parce que c'est impossible de compenser pour les péchés passés, la dette étant pleinement payée. Et c'est pour ça que je vous parle de l'homme religieux en vous et en moi, qui veut continuellement compenser pour le péché, qui veut continuer à se racheter, prétendant avoir les ressources. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous racheter. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous racheter. Christ vous a racheté. La dette est payée. Allons en lui, recevons son pardon, et comme il le dit à la femme, je te pardonne, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Recevons son pardon parce que nous ne sommes plus sous la domination du péché. Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Romains 8, 5. Cet Esprit Saint qui habite en nous, c'est celui qui nous conduit dans la vérité, qui nous rappelle ce qui concerne Jésus et qui développe en nous le caractère d'enfant de Dieu et nous apprend à discerner la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous développe le caractère de Christ et nous amène dans une totale dépendance à lui. C'est ce que l'Esprit fait à nous. Alors, dans le fond de mon échec, dans les moments les plus sombres de ma vie, je dois courir à lui, recevoir son pardon. Sa grâce nous enseigne. Sa grâce nous enseigne à recevoir ce pardon et à rejeter l'impiété. La même grâce de Dieu qui m'amène à courir à lui pour recevoir ce pardon, cette grâce imméritée, c'est celle qui aussi m'enseigne à rejeter l'impiété. Parce qu'ayant l'Esprit qui habite en moi, je m'affectionne aux choses de l'Esprit. Et la maturité du chrétien se manifeste dans un dégoût de plus en plus profond face au péché, et donc un attachement de plus en plus grand vers le Seigneur, qui est celui qui me pardonne et qui me rend capable de marcher avec lui. mettre en œuvre ce que Dieu produit. Mettre en œuvre, et puis cette phrase-là fait en flipper plusieurs, mettre en œuvre votre salut. Certains ont voulu interpréter ça en disant que ça avait un rapport avec le salut, ce qu'on doit faire pour notre salut. Ça ne veut pas dire de travailler pour obtenir le salut de vos âmes. Encore une fois, c'est le religieux en nous qui veut prendre de l'avant, qui veut prendre les choses en main. Non, on parle ici que la transformation intérieure est graduellement rendue manifeste extérieurement. Je mets en œuvre ce que Dieu produit. Ce que Dieu produit dans le secret de mon cœur est rendu manifeste graduellement extérieurement. Je manifeste ce que je suis réellement malgré les cicatrices du péché. Malgré les cicatrices laissées par le péché, les cicatrices que le péché va continuer à laisser. Mon sauveur même, mon rédempteur vit, comme on vient de chanter. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de cette réalité-là, de mettre en œuvre notre salut. Galates 6, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, Éphésiens 4, 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Pierre nous dit, ben ainsi, faites tous vos efforts. On voit encore ce paradoxe. Le même que Paul enseigne ici, Pierre le ramène dans ses mots. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre, par ça. Mettre notre confiance en lui, finalement, et c'est ce qu'on découvre en lisant ce que Paul nous enseigne ici, mettre notre confiance en lui, c'est de l'obéir. C'est d'obéir à Dieu. Le repos de la foi n'est pas synonyme de passivité, au contraire. Pourtant, dans notre esprit, quand on lit ce passage-là, on a l'impression qu'il y a une contradiction. On sent comme une tension entre ma responsabilité et la responsabilité de Dieu. Et il va dire en plus, avec crainte et tremblement, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Encore une fois, ça peut être mal compris, ça peut nous amener, ça peut fausser notre idée, notre rapport avec le Seigneur, avec notre Père céleste. L'idée ici derrière, c'est que je prends très au sérieux l'appel de Dieu à lui obéir et à marcher avec lui. Je suis face à un Père qui m'aime. Tantôt, je voulais faire monter Emmanuel. Mathéo, parce que mon frère est là, Emmanuel. Je suis content qu'il soit là en passant. Si vous voyez un gars qui me ressemble, bien c'est lui. Vous pouvez aller le saluer. Je voulais faire monter Mathéo tantôt. Je voulais le prendre à mes bras, puis il était trop gêné. Tu sais, comme parent, là, l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est rien à comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Vous savez, hein, les entrailles qui se serrent hein, quand on voit nos petits, hein, nos petits poutres, on les aime-tu, nos enfants? Hein, c'est indescriptible. Des fois, on a l'air un peu bipolaire hein, comme parents. On les aime-tu, on leur donnerait tout à nos enfants, puis l'instant d'après, on les enfermerait pendant le restant de la fin de semaine. Hein, le parent, oui, c'est vrai, a l'air un peu bipolaire des fois. Mais cet amour-là qu'on ressent pour nos enfants, dites-vous que notre Père céleste, son amour est tellement plus grand. Cet amour qu'on ressent pour nos enfants, c'est rien comparé. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous parle de mettre en œuvre le salut avec crainte et tremblement? Premièrement, parce que je prends très au sérieux cet appel-là à le suivre. Et en plus, je me connais. J'ai aucune confiance en mes capacités. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Mon assurance ne vient pas de mes capacités. L'apôtre Paul ici ne fait pas appel à votre vertu. L'apôtre Paul ne fait pas appel à notre vertu ici, oubliez ça. Et ça semble être le cas. Au premier abord, ça semble être le cas. Mais je me connais. Je me connais trop bien. Je connais mes limites. Et Ça m'amène à être dans une crainte, sachant que cette marche, cette obéissance, écoutez, si ça repose entièrement sur moi, je suis perdu. Aussi bien d'arrêter tout de suite. Non, c'est vrai, soyons honnêtes. Et réflexe courant chez les croyants, c'est que devant ce constat-là, non, oublie ça, quand je regarde les exigences que le Seigneur met devant moi, je suis échec et match, je suis game over. Devant ce constat-là, souvent le réflexe, c'est de s'arrêter là, à ce point-là, ce constat de mon incapacité. Je me décourage, j'abandonne. Finalement, qui est à la hauteur de la tâche? Qui est à la hauteur de la tâche? Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et Paul va dire, pas simplement quand je suis là, mais aussi quand je suis absent. C'est devant Dieu que vous marchez. Ce n'est pas devant les hommes. C'est devant Dieu que vous marchez. Paul lui-même, parce qu'attention, hein, on connaît les capacités de Paul. On a beaucoup parlé, hein, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre par excellence, un homme d'exception. Oui, mais il était apôtre par appel. Il était apôtre par appel et non un surhomme. Dieu l'a équipé pour une tâche à laquelle il l'a appelé. Et Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, parce que je reçois de Dieu, par sa provision pour moi, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Sa grâce est efficace. L'action de Dieu dans ma vie est efficace. Elle n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Hey, wow, Paul. Là, si on s'arrêtait là, on aurait une mauvaise idée, l'opinion qu'il a de lui-même. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu efficace en moi, la grâce de Dieu, les ressources, la provision de Dieu, ce que Dieu m'a donné pour m'équiper pour cette tâche, pour le servir comme apôtre, et la même chose s'applique pour vous et moi, partout là où le Seigneur nous envoie servir. En passant, quand je dis « nous envoie servir », c'est peut-être à la place d'à côté, le siège d'à côté. Attendons pas les grands appels. L'appel de Dieu, c'est aujourd'hui. Servons-le aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, ne pensez pas que Dieu s'en remet à votre vertu. Lisons la suite. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit le bon qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, pourquoi est-ce que je devrais faire tous mes efforts comme Pierre l'enseigne, si c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire? Hein, des fois, on a l'esprit tordu. Hein? On va voir tout à l'heure qu'est-ce que Paul dit aux esprits tordus. Okay? La suite va nous éclairer là-dessus. Non, parce que Dieu pourvoit. Faisons tous nos efforts, sachant que ça ne dépend pas de nous, que ça ne repose pas sur nos épaules, sachant que Dieu fournit tout ce qui est nécessaire pour le servir. Quand Dieu demande de vous quelque chose, il pourvoit, il y a une provision. Il équipe, il donne. On n'est pas orphelin, on n'est pas laissé seul. Quand Dieu exige, quand les exigences semblent inatteignables, c'est une bonne nouvelle. On est devant notre échec. Et à la fois devant la provision de Dieu. C'est là que la provision de Dieu s'ouvre pour nous. C'est là qu'on découvre ce que Dieu, la grâce de Dieu. C'est plus simplement un mot, un beau mot que les chrétiens partagent entre eux dans des chants. La grâce de Dieu a un impact, s'articule sur le terrain, dans la vraie vie. Quand je suis devant les exigences, quand je suis devant un Paul qui me demande de mettre en œuvre mon salut, et que je ne me sens pas la force, que je ne me sens pas les qualités de serviteur de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que vous êtes prêt à le servir, vous êtes prêt à recevoir sa provision. Alors faites le pas, et puis vous découvrez un Dieu fidèle, qui vous connaît mieux que vous-même, qui sait mieux que vous à quel point vous n'êtes pas suffisant pour ces choses. Vous n'avez pas la capacité de servir. Mais lui pourvoit, lui vous rend capable. Et comment ça s'articule, tout ça? Je lui confesse. Et j'en reste pas à ce constat-là. Je dis, Seigneur, je suis échec et mat, merci parce que tu vas pourvoir. J'ai vraiment pas les qualités, j'ai vraiment pas le profil du serviteur de Dieu, mais merci parce que toi, tu me rends capable. Je m'en remets à toi, Seigneur. Je m'arrêterai pas à ce constat-là, je vais juste saisir cette grâce que tu as pour moi. Nous ne nous arrêtons pas au constat d'échec. C'est la première étape. C'est vital, c'est nécessaire, ça nous rend humble, ça nous garde humble et ça nous rend apte à recevoir la provision de Dieu. Mais recevons-la. Dieu, dans sa grâce, a pourvu. Ce qu'il demande de nous, c'est de puiser dans ses ressources afin de mettre en œuvre ce que lui produit en nous. Faites tous vos efforts. Cette énergie-là, lui-même va nous la donner. On doit aller à lui confesser qu'on ne l'a pas. Seigneur, c'est à peine si je suis capable de lire le verset à matin. C'est à peine si je suis capable d'ouvrir ma Bible puis d'arriver au passage où Pierre me dit de faire tous mes efforts. Quel effort! Allons à lui puis recevons cette grâce que lui a pour nous. La grâce de Dieu me pousse à l'action. La grâce de Dieu me pousse à l'action. Une grâce mal comprise m'amène à la passivité. Et ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas « fais ton possible ». Non, on est disqualifié en partant. La grâce de Dieu me pousse à l'action parce que lui me rend capable. Elle m'enseigne que je ne suis pas suffisant, mais elle m'enseigne qui est Dieu. Qui est celui qui m'appelle à marcher avec lui? Parce que lui vit en moi désormais. Alors je peux renoncer à l'impiété. Je peux renoncer à tout ce qui fait que ce monde est corrompu. La parole parle du monde, d'un monde dans lequel on vit, qui est corrompu, qui est tordu. Et on n'a pas besoin d'aller loin pour le constater. Sa grâce m'enseigne à renoncer à l'impiété parce que lui est suffisant. Il vit en moi. Il m'enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à mes vieilles habitudes, à ma paresse, à mon indifférence, à l'orgueil, à être zélé, à faire le bien, à être concerné par les autres, à être engagé à servir Dieu. Vous savez, quand on entend ces impératifs-là, on peut sentir ça comme une vague qui va nous submerger. Et ça, c'est le sentiment qu'on a quand on oublie qui nous appelle. N'oublions pas qui nous appelle et quelle promesse il nous a faite. Et cette vague-là va redescendre. Un pasteur qui disait, « Lorsque vous accomplissez ce qu'il vous a donné la grâce de faire, Dieu vous récompense pour avoir utilisé la grâce qu'il vous a donnée en premier. » Pas merveilleux, ça? Dieu nous récompense pour la grâce que lui nous a donnée d'accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Parce que nous servons sous le régime de l'Esprit. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a dit, je demeure désormais en toi. Tu vas marcher en nouveauté de vie. La mort est vaincue. Tu as été racheté. Tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Nous servons sous le régime de l'Esprit, plus selon nos ressources, mais selon les siennes. Et ça nous pousse à dépendre de lui. Dépendre de lui, non seulement quand des difficultés viennent dans nos vies, ça, on a plus ou moins on arrive à bien comprendre cet aspect-là de la vie chrétienne. Une difficulté arrive, je m'attends à lui. Mes enfants ne sont pas vivables. Je veux les voir transformés. Je m'attends à lui. Les miens sont super en passant. Là, Parce que comment est-ce qu'on arrive à cette dynamique-là entre nous et Dieu? Bien, Dieu a une certaine pédagogie où il nous amène au bout de nous-mêmes. Dieu nous amène au bout de nous-mêmes. Dieu nous amène au bout de nos ressources. Et ça, ça nous amène, ça nous apprend à dépendre de lui, à nous appuyer sur lui. Finalement, ça m'amène devant ce qui semble impossible, au-delà de mes ressources, à juste lui dire dans la prière, « Seigneur, c'est trop pour moi. Je me sens dépassé. Agis en moi. Et je ferai tous mes efforts pour me soumettre à ta volonté. » C'est pas « j'agis en moi ». Et pour certains chrétiens ont peur de dire ça, parce que c'est comme si on offusquait Dieu, comme si Dieu n'était pas tout à fait capable de prendre les choses en main. Non, non, c'est dans son plan. Il nous rend participants. Seigneur, agis en moi pendant que je fais tous mes efforts pour marcher dans la foi, dans l'obéissance, dans la piété. Et il le fait. Et il le fait avec plaisir. Vous savez, ce passage-là, souvent, pendant une période de temps, je l'ai compris comme si Dieu le faisait si ça y tentait. Selon que ça y tente ou pas, ça peut arriver. Okay? Donc, il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si un jour ça lui fait plaisir, il va produire le vouloir et le faire. Mais non, c'est pour son plaisir. Il le fait pour son plaisir. Ça lui fait plaisir de produire en nous le vouloir et le faire, de voir un peuple qui se lève, qui se confie en lui, qui marche selon les ressources que Dieu met à notre disposition. Pour son plaisir. Pas si, pour. Et ça, ça désamorce la voix du diable qui est là, qui essaie de nous faire croire que tout repose sur nous. Et vous savez, juste pour une petite parenthèse, on parlait d'un paradoxe qui est vieux comme l'Église. Vous avez ces gens qui croient que tout repose sur l'homme. La marche du croyant repose entièrement ou presque entièrement sur l'homme, sur vous et moi, sur nos efforts. C'est le piétisme, hein? Le piétisme. Et vous avez ceux à l'autre extrême qui vont dire, non, non, ça dépend entièrement de Dieu, je m'assois, c'est une espèce de mysticisme où j'attends que ça se produise par l'action du Saint-Esprit. Et là, on parle de quiétisme. Parce qu'on essaie de tout rationaliser, hein? On pense pouvoir mettre ce que Dieu nous dit dans une petite boîte. Rationaliser, c'est ça. On prend ce que Dieu dit, qu'on pense avoir compris, et on veut mettre ça dans une petite boîte. Et le Seigneur nous amène plus loin. Le Seigneur ne se contente pas de nous faire comprendre les choses. Il veut nous amener à vivre avec lui. Il veut nous amener à vivre avec lui. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a compris. C'est celui qui a connu Dieu par Jésus-Christ. Alors, pourquoi murmurer devant cette réalité des choses? Comment est-ce que je pourrais murmurer? Paul lance un avertissement. Ne murmurez pas. Verset 14. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation. Comment est-ce que je pourrais murmurer devant un Dieu si bon envers moi, qui ouvre un banquet devant moi et qui m'appelle à me nourrir et à boire de cette eau qui donne gratuitement, qui m'appelle à puiser dans ses ressources, à recevoir de lui. Comment est-ce que je pourrais murmurer? Je vais murmurer dans la mesure où, justement, j'ai l'impression que ça repose sur moi. C'est là que débutent les murmures. À partir du moment où je pense que ça repose entièrement sur moi, les murmures prennent le relais. Mais on est appelé à vivre une vie de reconnaissance. Je prends un verre d'eau fraîche, merci Seigneur, je peux boire de l'eau fraîche, justement. Je Je m'en vais dîner tout à l'heure. Merci pour le spaghetti. C'est un peu froid, mais c'est pas grave. Les jeunes ont fait de bon cœur. Je rentre au travail lundi. Merci Seigneur parce que je peux mettre du pain sur la table chez nous. Comment est-ce que je peux murmurer? Comment est-ce que je peux trouver une raison de murmurer? Sans murmure, sans hésiter. Et ce qui est intéressant avec ce mot-là, hésiter, c'est plus que de juste être sur le break. Okay? Le mot ici parle du fait que je suis en train de dialoguer en moi-même. Je suis en train d'essayer de raisonner ce que Dieu dit. J'hésite. Je suis en train de raisonner ce que Dieu dit, au lieu de juste marcher dans la confiance que lui pourvoit, que lui dirige. Et je suis là et puis je suis en train de débattre en moi-même. C'est le même mot qui est utilisé que pour mauvaise pensée. Je mijote mes mauvaises pensées, je mijote mon raisonnement naturel, mon raisonnement propre. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. C'est Bonhoeffer, je pense, qui, en l'ouverture de son livre d'éthique, il y a une formule comme ça. Vous irez lire, là. C'est avant même que le livre commence. Il y a quelques citations là, sur la liberté, sur l'action. Hein. Ça vient de me popper, là. Je renvoie son livre. Alors, chaque fois que je suis devant ces exigences, et on n'a pas terminé. Regardez bien. Parce qu'il dit après ça, « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez au présent, temps présent. Vous brillez aujourd'hui. Vous êtes comme une grosse enseigne sur le bord de l'autoroute. Vos vies envoient un message. Vos vies envoient un message. Vos vies communiquent un message d'espoir. Un message de vie, portant la parole de vie. Et le message de la grâce de Dieu qui est dégagé par son Église, ce message-là, c'est que malgré mon échec, ou plutôt au milieu de mon échec, Christ m'a appelé à lui. Il m'a justifié, il m'a relevé, il m'a sorti du trou dans lequel que je m'étais moi-même creusé. Il m'appelle son enfant. Il a des plans pour moi. Alors j'apprends à dépendre de Jésus, pas seulement pour l'accomplissement d'un plan, d'un désir, pas simplement pour sortir d'une difficulté, mais j'apprends à dépendre de lui pour marcher dans l'obéissance, dans sa volonté. Et à chaque fois que je suis renversé devant des mots comme irréprochable, pur, irrépréhensible, j'ai tendance à me regarder et à dire, Seigneur, il me semble que la fosse est profonde entre moi et la description que Paul donne ici. Rappelez-vous ce que Christ a mis à votre compte. Lui qui a été fait péché, il a fait de vous la justice de Dieu. Apprenez à vous asseoir. Quand vous êtes intimidé devant ça, devant ce texte, rappelez-vous ce que Christ a mis à votre compte, ce qui vous a crédité. Alors, nous sommes témoins portant la parole de vie. Et en plus, récompense pour ceux qui œuvrent au milieu de vous. De voir marcher une église dans cette grâce de Dieu, c'est une récompense pour tous ceux qui œuvrent, qui servent au milieu de l'église. De voir cette santé d'une église qui s'attend à lui. Paul en parle pour lui-même, il dit « c'est ma joie, c'est ma joie ». Il va le dire quatre fois « c'est votre joie aussi, on est partenaires ensemble ». Dans cette marche, on est partenaire. On découvre une joie, et on parlait du fait que l'Épître aux Philippiens nous parle de la joie. Ne vous privez pas de cette aventure avec Dieu. où vous êtes continuellement mis devant votre inefficacité, votre non-suffisance, et vous découvrez sa provision pour vous. Ne vous privez pas de ça. Parce que vous allez vous priver d'une joie qui nous est destinée. C'est la joie qui est prévue pour nous. Et une joie, pas en solo, mais une joie comme partenaire ensemble. Servant le Seigneur ensemble, dans un seul cœur, dans une seule direction. Et ça, c'est une joie véritable que le Seigneur nous accorde. Il va dire après ça, et ça c'est l'impact du ministère de Paul auprès des Philippiens, c'est l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, investie dans nos vies. Ça amène le progrès et la joie dans la foi. Philippiens 1, 25. Progrès et joie dans la foi assurée par Dieu, qui est garant de notre marche avec lui. Alors faisons tous nos efforts pour le servir. Mettons en œuvre notre salut. Saisissons la provision qu'il a pour nous. Alors que vraiment le Seigneur vous amène un temps de rafraîchissement. Que le Seigneur puisse vraiment vous amener à saisir cette réalité-là. Parce que je sais que ça en fait flipper plusieurs. Moi, le premier, on perd contrôle. On dit, comment que ça s'articule, cette affaire-là? Comment est-ce que je peux prendre, recevoir cette provision-là? Confessez-lui. N'arrêtez pas devant le constat de votre échec. Confessez-lui, saisissez la provision qu'il a. Et nourrissez-vous sa parole. Entretenez-vous, non pas de vos pensées, de votre hésitation. Ne demeurez pas dans votre hésitation. Mais lancez-vous dans l'action, lancez-vous dans l'obéissance. Soumettez vos vies au Seigneur. Amen. Alors, pendant que les chants reviennent en avant, je ne sais pas si c'était prévu, mais quand je viens prêcher, il y a toujours un bon temps pour reprendre un chant à la fin. On va prier ensemble. Alors, Seigneur, ce matin, on est tellement reconnaissant parce que ta parole nous vivifie. Ta parole, Seigneur, nous rappelle que tu as pourvu, que tu as tout pourvu, Seigneur. Fait que, ensemble, on te demande de nous apprendre à dépendre de toi. Merci pour cette nouvelle vie, Seigneur, cette nouvelle vie dans laquelle tu nous as baptisés. Merci parce que tu as tout pourvu, Seigneur, afin qu'on puisse marcher dans l'obéissance, afin qu'on puisse marcher avec zèle dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Sois béni, Seigneur. On veut faire monter encore un dernier chant ce matin pour te dire notre reconnaissance, pour te dire à quel point, Seigneur, on s'attend à toi, à quel point on a besoin de toi. On te prie, Seigneur, pour un temps de rafraîchissement, pour que ceux qui sont peut-être en train de ramper en ce moment, qui la vision est trouble, te demandent d'ouvrir leurs yeux. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, qui vivent encore dans la mort en ce moment, qui entendent ce message, appelle-les, Seigneur, afin qu'ils passent de la mort à la vie. Toi-même, saisis-les. Appelle-les à te suivre, Seigneur. Fais d'eux des disciples, afin qu'ils puissent connaître eux aussi cette assurance de ton amour. Puis la beauté, Seigneur, la grandeur du plan que tu as pour tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ton Église.